5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà qu'arrive l'équipe de Lilith Martin et les autres sur la piste d'atterrissage.
Mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie qui ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Canu 102.2. Vous êtes bien ce soir avec Lilith Martin et les autres et on vous a préparé une émission spéciale sur Frida Kahlo. On a voulu faire une émission de radio sur Frida Kahlo, mais on va pas forcément parler de la partie qui était souvent la plus vue. On s'est dit qu'on allait plutôt parler de la partie de ses relations avec les femmes, en partant du contexte historique de l'époque mexicaine où on pourra parcourir un peu le portrait de cette artiste. Elle est connue, mais seulement partiellement. Elle peignait ce qu'on appelle du réalisme magique. Alors partons. Ça se passe à l'époque, mais des choses étranges peuvent apparaître, comme dans ses peintures. Et si nous partions dans ce réalisme magique ? Allons-y. On va commencer tout d'abord par le contexte mexicain au début du XXe siècle. Porfirio Diaz est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Il voulait à nouveau se représenter à l'élection présidentielle de 1910, mais Francisco Madero annonça aussi sa candidature. Diaz le fit emprisonner puis le relâcha. Le vieux président remporta ensuite des élections truquées. Exilé aux États-Unis, Madero ne s'avoua pas vaincu. Il lança le plan de San Luis, daté de octobre 1910, dans lequel il déclarait nulles les élections et exhortait les Mexicains à prendre les armes le 20 novembre 1910 contre le gouvernement. Après des débuts difficiles, le soulèvement connut ses premiers succès au Chihuahua, dans le nord du pays, grâce à des chefs militaires tels que Pascual Orozco et Pancho Villa. Le mouvement s'étendit à d'autres régions, notamment au Morelos, où Emiliano Zapata et les petits paysans luttaient pour récupérer les terres dont ils avaient été spoliés par les grands propriétaires de plantations de canne à sucre. L'armée fédérale, incapable de faire face sur plusieurs fronts, subit de lourdes défaites, et le président Diaz se résigna à démissionner en mai 1911, puis à quitter le pays.
L'élection de Madero en novembre 1911 ne résolut rien. Bien intentionné, mais plus préoccupé de rétablir la légalité constitutionnelle que de résoudre les griefs socio-économiques, il dut faire face à la désillusion de certains de ses propres partisans, mais aussi à l'opposition des partisans de l'ancien régime, qui occupaient encore de nombreux postes. En février 1913, il fut renversé par un coup d'état militaire, puis assassiné. Après avoir manœuvré pour s'emparer du poste de président, le général Victoriano Huerta dut rapidement faire face à l'opposition déterminée de Venustiano Carranza, gouverneur de l'état de Coahuila, de Pancho Villa, qui avait repris les armes dans l'état de Chihuahua, et d'Emiliano Zapata, qui ne s'était jamais soumis aux Morelos. Après plusieurs défaites de l'armée fédérale au printemps 1914, Huerta quitta le pays au mois de juillet. Des fractures apparurent rapidement entre les différentes factions révolutionnaires, carrancistes, villistes et zapatistes.
Réunis lors de la convention d'Aguascalientes en octobre 1915, ces factions n'arrivèrent pas à un accord durable et les combats reprirent. En 1915, le général carranciste Alvaro Obregón affronta et défit Pancho Villa au cours de plusieurs batailles sanglantes dans le centre du pays. Emiliano Zapata, qui avait conclu une alliance éphémère avec Villa, fut détruit à la défensive de Morelos. En 1916, Venustiano Carranza était le seul à pouvoir prétendre au pouvoir suprême. Même s'il ne contrôlait pas l'ensemble du pays et qu'il devait faire face à d'énormes problèmes socio-économiques. Après la promulgation d'une nouvelle constitution en 1917, Carranza fut élu président. Devenu progressivement impopulaire, il fut renversé en 1920 par le premier coup d'État de la révolution organisée par les partisans d'Obregón, qui fut ensuite élu président.
Son 11 de la noche. Ay, qué bonito.
Radio Canu 102.2, on est toujours au cœur d'une émission spéciale sur Frida Kahlo et on vient d'écouter La Bruja.
Et maintenant, on va commencer un peu sur la biographie de Frida. Ce qui était pas mal, c'est qu'elle prétendait être née en 1910, comme vous avez pu l'entendre avant, l'année où débuta la légendaire révolution mexicaine menée par Villa et Zapata. Et elle se targuait d'être une fille de la révolution. En réalité, Frida Kahlo vint au monde le 6 juillet 1907 dans la Casa Azul, la Maison Bleue, à Coyoacán, un quartier bourgeois du sud de Mexico. Elle est la troisième des quatre filles de Matilda Calderón, mexicaine de père espagnol et de mère indigène, et Guillermo Kahlo, photographe protestant né en Allemagne. Elle a 6 ans quand elle fait pour la première fois l'expérience de la maladie, une poliomyélite. Lui laissera la jambe droite atrophiée et lui vaudra d'être moquée par ses camarades de classe. En 1925, Frida a 18 ans. Elle fréquente l'un des meilleurs lycées du pays et se destine à des études de médecine. En rentrant chez elle, le bus dans lequel elle se trouve est percuté par un tramway. On relève plusieurs morts et de nombreux blessés, dont Frida qui survit par miracle. Son pied droit est broyé. Elle souffre de multiples fractures de la jambe, du bassin, de la colonne vertébrale et une barre de métal a transpercé son corps de l'abdomen à la cavité pelvienne. Ce qui expliquera ses nombreuses fausses couches, elle ne pourra jamais avoir d'enfant.
Fin de l'été, une chaude luminosité dans les rues, une certaine douceur dans l'air, un souffle de brise. L'après-midi du 17 septembre 1925, joyeuse comme à l'accoutumée, heureuse aussi d'être en compagnie d'Alejandro, Frida monta avec son fiancé dans un de ses bus, mis quelque temps plus tôt en circulation dans la ville. Un bus avec des banquettes en bois vernis, se faisant face sur toute sa longueur, un plancher, des portes et un tableau de bord en bois eux aussi. Des images pieuses, des chapelets, un scapulaire, une petite couronne de gousses d'ail encadrant le visage d'une vierge, accrochée au rétroviseur, protégeant les présents contre tout accident. Un bus bien rempli, à l'heure où, juste avant que le soleil ne se couche, l'on rentre chez soi, via Coyoacán. Assis l'un près de l'autre, Frida et Alejandro se taquinaient tendrement, profitant du dernier moment à passer ensemble avant de regagner chacun son foyer. Le petit train de Xochimilco arrivait lentement sur ses rails que le bus s'apprêtait à franchir. Le petit train n'allait pas vite. Le bus avait peut-être le temps de passer. Peut-être pas. Le petit train n'allait pas vite, mais il ne put freiner. Comme un taureau, il était porté par son poids et son élan. Il heurta en son centre le bus et, toujours doucement, commença à le déporter. La tôle du bus se pliait peu à peu, sans toutefois céder. Les genoux des passagers d'une banquette touchèrent les genoux des passagers de l'autre. Par les fenêtres brisées, des cris jaillissaient de ce bus prenant, sans apparente difficulté, la forme d'un arc de cercle. Soudain, il vola en éclats et des passagers furent éjectés. Le petit train, quoique entravé, continuait d'avancer.
Lettre de Frida Kahlo. Les bus de mon époque n'étaient pas du tout fiables. Ils commençaient à circuler et ils avaient beaucoup de succès. Les tramways étaient vides. Je montais dans le bus avec Alejandro Gomez Arias. Peu après, le bus éteint et un train de la ligne de Xochimilco se choquèrent. Ce fut un choc étrange. Il ne fut pas violent, mais sourd, lent, et il m'amena tout le monde, et moi plus que les autres. Nous avions pris un premier bus, mais j'avais perdu une petite ombrelle. Nous redescendîmes pour la chercher, c'est pourquoi nous eûmes à prendre cet autre bus qui me démolit. L'accident eut lieu à un carrefour, en face du marché San Juan, exactement en face. Il est faux de dire qu'on se rend compte du choc, faux de dire qu'on pleure. Je n'ai eu aucune larme. Le choc nous déporta vers l'avant et la main courante me traversa comme l'épée, le taureau.
À partir de ce jour, sa vie devint un calvaire marqué par les opérations, plus d'une trentaine. Les phases de convalescence où elle est clouée dans un lit, les pesants corsets de plâtre, la souffrance et la sensation de fatigue permanente.
C'est à la suite de ce terrible accident que Frida Kahlo se met à peindre. Sortie de l'hôpital, elle doit rester alitée chez elle. Pour lui éviter l'ennui et lui faire oublier la douleur, son père lui offre du matériel de peinture, confectionne un chevalet qui lui permet de peindre couché, tandis que sa mère fait installer un miroir au plafond de sa chambre. Son reflet est l'une des seules choses qu'elle puisse voir, et c'est sans doute l'élément déclencheur de sa propension à l'autoportrait, qui sera le genre de sa première toile, comme de 55 des 143 tableaux qu'elle peindra ultérieurement. Dès qu'elle est en état de se déplacer, Frida sort et fait la connaissance d'artistes et d'intellectuels gauchistes. En 1927, elle se rapproche du Parti communiste, auquel elle adhère bientôt. C'est à cette période, par des connaissances communes, qu'elle rencontre Diego Viriviera, célèbre auteur de fresques murales monumentales.
Ces deux-là étaient-ils, comme on dit, faits l'un pour l'autre ? En tout cas, ils seront chacun la grande passion amoureuse de l'autre, et ils se marient en 1929. Elle a 22 ans, lui 43. Elle est petite et mince, lui est un gaillard corpulent. Elle peint finement les sentiments les plus intimes, lui exprime avec grandiloquence de grandes idées sociales et politiques. Malgré un physique plutôt ingrat, Rivera a beaucoup de succès auprès des femmes. Il a déjà été marié deux fois et il a toujours eu des maîtresses. Son mariage avec Frida n'y changera rien. Sa nouvelle femme n'est pas en reste, qui vit également des aventures extra-conjugales, notamment avec des femmes. Mais lorsqu'elle s'aperçoit, au début de 1935, que son époux entretient une liaison avec Christina, sa propre sœur, Frida, profondément blessée, part seule vivre un temps à New York. À son retour au Mexique, le couple reprend ses habitudes. Diego est toujours aussi volage, Frida lui rend l'appareil. Elle entretient notamment en 1937 une passion courte mais intense avec un Léon Trotsky en exil, traqué, et qui sera assassiné 3 ans plus tard. Le couple finit par divorcer en 1939 avant de se remarier l'année suivante en faisant le serment, imposé par Frida, de cesser toute relation adultère. Ce n'est qu'en 1953 qu'une grande exposition lui est consacrée au Mexique.
Carton d'invitation de Frida Kahlo pour le vernissage de son exposition à la Galerie d'Art Contemporain, 13 avril 1953. En t'adressant du fond du cœur ma tendresse et mon amitié à mon humble exposition, j'ai le plaisir de t'inviter. Chez Lola Alvarez Bravo, je t'attends à 8h du soir. J'imagine que tu as une montre, ne va pas me décevoir. Numéro 12, rue Amberes, c'est l'adresse de la galerie. Alors surtout, ne te perds pas pour les détails, j'en ai fini. J'attends de toi que tu me donnes un avis sincère et cordial. Tu te targues d'avoir des lettres, ton jugement est primordial. Tous ces tableaux, je les ai peints à l'aide de mes propres mains. Ils attendent cloués au mur de voir s'ils plaisent à mes frangins. Du fond du cœur, sois remercié. Sache que toujours tu compteras sur ma très sincère amitié. Frida Kahlo. Coyoacán, 1953.
Son état physique s'est considérablement dégradé depuis la fin des années 40. Elle éprouve des douleurs permanentes dans le pied et dans le dos qui l'ont rendue dépendante de la morphine. Elle a subi une nouvelle série de pénibles opérations de la colonne vertébrale et porte désormais un corset de fer. Dans l'impossibilité de se déplacer, elle est conduite en ambulance jusqu'à la salle d'exposition, au milieu de laquelle un lit à baldaquin a été installé à son attention. Vêtue de ses plus beaux atours, elle assiste au vernissage dans ce qui ressemble à une cérémonie d'adieu.
Son état continue d'empirer. Sa jambe droite est amputée jusqu'au genou et sa dépendance aux drogues et à l'alcool ne lui permettent plus de peindre. Dépressive, affaiblie par une grave pneumonie, Frida Kahlo meurt le 14 juillet 1954. Officiellement d'une embolie pulmonaire, mais certains émettent l'hypothèse d'un suicide par overdose de médicaments. Ce n'est véritablement que dans les années 70 que les peintures de Frida Kahlo ont connu un réel succès planétaire. Personnage fascinant, elle est une icône par excellence de la vitalité culturelle mexicaine et au-delà du Mexique post-révolutionnaire. Elle est aussi une icône féministe et une formidable source d'inspiration pour les artistes contemporains.
Lettre à Dolores del Rio, Coyoacán, 29 octobre 1953. Merveilleuse Dolores, je te prie d'accepter la peinture que tu m'as commandée. Je peins beaucoup en ce moment. Avant-hier, je suis arrivée à Puebla et là, j'ai peint sur ma poitrine, dans le lit, ton tableau. Ma santé va mieux, mais je suis terriblement angoissée. Maria, la petite sœur de Vidalito, le peintre de 9 ans de Oaxaca, tu te souviens de lui ? Va très mal. Elle est dans le coma depuis hier après-midi. Diego n'est pas là, il est parti à Pátzcuaro et tu es mon seul secours. Je te supplie de me donner l'argent que tu m'avais promis, 1000 pesos, pour le tableau. Je n'ai même pas de quoi payer les médecins et les médicaments. ni pour la petite, ni pour moi. Manolo Martinez te remettra le tableau. C'est l'assistant principal de Diego. Si tu es chez toi, aie la bonté de lui remettre l'argent, en chèque ou en liquide. Il est de toute confiance. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Des milliers de baisers. Ta Frida.
mujer llorona y por eso el sol de España, la luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et vous écoutez Lilith Martine et les autres, une émission sur Frida Kahlo. On vient juste d'écouter la chanson qui s'appelle La Llorona de Chavela Vargas. Et maintenant, on continue sur du cinéma.
Bonjour, je suis l'intervenante cinéma et je vais vous parler des deux biopics faits sur Frida Kahlo, un fait en 1983 et le plus récent en 2002. Je vais principalement parler de celui de 2002 parce que c'est celui le plus récent donc qui parle le plus à la plupart d'entre vous, enfin je suppose, et surtout parce qu'il a été fait avec Salma Hayek, la grande actrice mexicaine qui a été l'une des premières actrices latino-américaines nommées dans la catégorie actrice principale aux Oscars. Et elle ne l'a pas remportée, elle n'a jamais été renominée jusqu'à présent. C'est très triste. Donc les deux films généralement sont des biopics qui racontent la vie de Frida jusqu'à sa mort. Et se s'intéresse particulièrement à ses liens avec le communisme, à sa relation avec Diego Rivera, et bien sûr à sa maladie. vu que on accompagne Frida dans toute sa vie, sa maladie a une place extrêmement importante. Dans ces deux films, surtout le film de 2002, on nous parle de son enfance et de sa révélation avec le communisme. La particularité dans les deux films, c'est que la maladie, finalement, intervient réellement vers la fin du film. On ne montre pas Frida Kahlo de manière... on ne montre pas entièrement son corps qui souffre et atrophié. Non, on la montre avant. On la montre avant et pendant qu'elle ne souffre pas, pendant qu'elle est active et qu'elle participe à la révolution mexicaine. Et généralement, on la montre souvent avec Trotsky, parce qu'elle a rencontré Trotsky, et c'est très très important qu'elle a rencontré Trotsky. Mais la particularité de ces deux films, comme je l'ai dit, ce sont des biopics. Et les biopics, en tant que films, ne sont pas très divertissants. Il faut l'avouer, mon prof nous disait ça. Un biopic, ça va raconter une partie de la vie d'un artiste ou d'une célébrité. Et surtout, quand c'est un artiste, on va parler réellement du moment où il a commencé à faire son art, où il a eu la révélation de son art. Donc pour Frida Kahlo, ce sera son accident, malheureusement. Et bizarrement, dans ces deux films, on ne parle pas beaucoup de ces tableaux. On ne voit quasiment pas ces tableaux. Je ne sais pas si le problème des biopics d'artistes, c'est les droits d'auteur. S'ils n'ont pas les droits d'auteur, on ne montre pas le tableau. C'est un fait. On fait en sorte qu'on voit le tableau avec des scènes du film. Et dans le seul film où on voit réellement les tableaux de Frida Kahlo, c'est le film de 2002 avec Salma Hayek. En même temps, Salma Hayek a réellement bossé sur ce film, c'est la productrice, donc on suppose qu'elle a eu quand même l'autorisation de montrer certains tableaux. En fait, on ne voit littéralement pas les tableaux, on voit l'exposition à la Grande Galerie d'Art de Mexico, où elle est dans son lit à baldaquin, et ça ressemble quasiment à sa future éloge funèbre. Et en fait, dans le film, donc c'est à la fin, l'accomplissement. Dans les biopics d'artistes, on voit l'artiste qui galère, qui a des difficultés. Enfin, son accomplissement, donc le tableau, son art est reconnu ou pas. Par exemple, dans Van Gogh, il va crever sans que son art soit reconnu, son vivant. C'est très triste, ne rigolez pas. Et là, Frida Kahlo a eu son art reconnu de son vivant, mais sa grande exposition, comme on l'a dit dans la biographie, c'était son éloge funèbre, on savait qu'elle allait mourir à cause de toutes ses souffrances. Et le film de 2002 nous montre en fait cette exposition en tant que tableau vivant. On voit Salma Hayek sur son lit à le baldaquin, on voit Salma Hayek se transformer en tableau devant nous. Et c'est très intéressant si on analyse le fait que Frida Kahlo peint du réalisme magique. Realismo mágico en espagnol, juste une petite définition, c'est quand on est dans un... on va dire qu'on est dans notre monde, dans le monde dit normal, et qu'il y a des choses dites fantastiques, dites étranges, mystiques, magiques qui interviennent, mais les personnages ont conscience que ceci, ce n'est pas normal, c'est étrange, mais ils continuent quand même à agir comme si la vie doit continuer, en fait. Et ça, c'est très répandu en Amérique latine. Je suis né dans la Caraïbe, j'ai grandi avec les contes et les légendes et la magie, et on retrouve aussi un truc qui ressemble au réalisme magique dans ma culture. Ce qui fait que je comprends très facilement ce que Frida Kahlo a voulu dire dans ses tableaux. Et dans le film de Salma Hayek, l'exposition se transforme en tableau géant. Salma Hayek prend la place de Frida Kahlo dans son tableau, parce qu'elle s'est quasiment investie dans ce film. Elle est devenue Frida Kahlo. Elle se comporte comme Frida Kahlo, elle a étudié à fond Frida Kahlo, et au final, l'apothéose du film biographique, elle est Frida Kahlo dans l'artiste. Et on rentre dans les rêves de Frida Kahlo, essentiellement dû à sa souffrance, sa morphine, à tous les médicaments. Ça se sent, parce que le travail de Frida Kahlo est concentré sur sa souffrance. Elle peint son corps. En fait, sa peinture, tout son art, sa peinture, ses lettres, etc., sont une thérapie. C'est une thérapie pour se réapproprier ce corps qui a été totalement massacré à cause de l'accident. Et le film de 1983 et surtout celui de 2002 nous explique ce qu'est l'art pour Frida Kahlo et pour beaucoup d'autres artistes, une thérapie. L'art, si on étudie les principaux tableaux de Frida Kahlo, par exemple le tableau elle est déguisée en cerf, où c'est un cerf qui a des flèches, je crois, plantées dans son corps, et le cerf il a juste sa tête en fait. On dirait qu'elle a fait un photomontage, elle a coupé la tête du cerf, elle a mis sa tête à la place. Le tableau du cerf, le tableau avec sa colonne vertébrale en métal, on le voit, l'autre tableau. Beaucoup d'autres tableaux, le tableau, le collier traditionnel mexicain avec le colibri. Le collier traditionnel mexicain est particulier parce qu'on dirait qu'il est fait en ronce et qu'il attaque le corps de Frida. Et surtout que le colibri, dans la culture native amérindienne, indigène, en général en Amérique du Sud, représente la mort. Les colibris sont les esprits de nos ancêtres morts, car après la mort, ils reviennent protéger les vivants au travers des îles. Donc en fait, oui, c'est très très joli, mais c'est un très mauvais présage. Et si on observe bien les tableaux de Frida Kahlo et les films, Frida va dans des lieux qui sont liés à la mort. Par exemple, dans le film où elle emmène Trotsky en visite, elle emmène Trotsky voir les pyramides du Chichen Itza. Qu'est-ce que c'était les pyramides du Chichen Itza ? On se demande. Les pyramides du Chichen Itza, comme dirait ma tante, c'est des juste grands trucs où on sacrifiait les gens aux dieux, généralement. Mais voilà, c'est très joli.
Il y a eu des parties qui ont été contredites par rapport à ces sacrifices.
Ouais, c'est entre les deux, c'est vrai que les gens disent, est-ce que c'est réellement des sacrifices ou non ? Après, celle qu'on voit, je crois que c'est celle du soleil.
Ouais, il y a celle du soleil, exact.
Je crois que c'est celle du soleil. Celle de la lune est plus petite, normalement. Oui. Donc, vu la taille de la pyramide, mais vu qu'elle était en arrière-plan, je ne suis pas sûr, mais pour moi, c'est celle du soleil. Parce que dans le film, déjà, le soleil, il était derrière la pyramide. Oui. Je pense qu'ils ont fait exprès de le filmer. Ou ils ont fait un vieux montage. Oui. Ouais. J'ai vu le film hier soir en plus.
C'est pour ça.
Mais ouais. Alors, celui de 83, qu'est-ce qu'il donne ?
Celui de 83. Tu vois que franchement c'est le problème de l'époque. C'est celui de 2002, comme je dis, il a eu de la chance d'être tourné en 2002, parce que comme ça ils ont pu intégrer, déjà ils ont pu faire un travail énorme sur la couleur pour retranscrire la couleur vive des peintures de Frida Kahlo, parce que faut pas oublier, même si l'art mexicain est lié à la mort, l'art d'Amérique du Sud est lié à la mort en général, c'est de la mort colorée. Les couleurs, c'est très important dans le Sud. Les gens, par exemple, le carnaval, c'est une fête de mort. Mm-hmm. Le carnaval aux Antilles, le carnaval au Brésil, ils se déguisent en esprit pour que leurs ancêtres puissent marcher avec eux sans problème.
Mais parce qu'aussi, il y a le rapport de l'inframonde et de l'intramonde aussi. Comment, quand les morts, ils reviennent, ils repartent. Et ça fait que les barrières, elles sont moins délimitées.
Même, c'est surtout en général, moi je pense qu'en Amérique latine, ce lien avec la mort vient aussi du fait de là où on vit. Donc on est une société ultra violente. Mm-hmm. Les îles, on vit sur une triple menace naturelle. Cyclone, ouragan, tremblement de terre, plus volcan. Il y a des problèmes dus au trafic de drogue et au fait qu'on ait les États-Unis qui renversent les dictatures, qui créent des problèmes. Et en fait, au final, ce qui fait qu'il y a une fascination grande pour la mort, pas seulement le respect des esprits et de tes ancêtres. Non, c'est parce que, de toutes les façons, quelqu'un va mourir dans ta famille, tu le sais, de manière... Soit si tu vis mourir tu meurs de manière naturelle, ok, généralement tu sais que ça va être une mort violente, une mort tragique. C'est ce lien, c'est vivre avec la conscience de, dès ton plus jeune âge, tu vas être confronté à la mort. Si tu as la chance de vivre de toute ta vie jusqu'à un certain âge, c'est tant mieux pour toi. Si malheureusement un de tes membres de ta famille va mourir de manière tragique, accidentelle, etc., faut pas être triste, la vie continue, faut raconter, etc. Et ça se sentait en fait, ça se sent dans le cinéma d'Amérique latine, dans le travail de Frida Kahlo, dans les légendes, dans le comportement avec la mort. Et c'est pour ça que, genre, ils ont, je crois qu'il y a, la, comment on surnomme, la vierge des trafiquants de drogue.
La Santa Muerte.
La Santa Muerte, ce qui est, existe et qui est louée par ceux qui ont été abandonnés par tous, les trafiquants de drogue, ceux qui donnent la mort et qui reçoivent la mort, les pauvres paysans abandonnés par les États, les gens victimes des dictatures. Je crois qu'il y a très peu de pays d'Amérique du Sud où il n'y a pas eu de dictature. En fait, sur le continent, je crois qu'il n'y en a aucun, en fait.
Et la plupart des dictatures ont été, après, en fait, les dictateurs, comment ils avaient été formés, la plupart du temps, c'est que là, certains, c'était des généraux qui avaient été formés par la...
Les États-Unis.
Et par la France, au niveau de la colonisation, quand ils les envoyaient dans différents pays, et quand, justement, il y a eu ce qu'on appelle l'espèce de décolonisation dans le Maghreb, les personnes qui avaient été formées là dans les années 60 sont parties faire les dictatures en Amérique latine. En
Et les nazis aussi. Il y a eu pas mal de nazis.
Il y a eu aussi pas mal de nazis.
Ah non, les nazis en Amérique du Sud, terrible histoire. J'ai une pote qui a découvert que son grand-père, c'était un ancien nazi. Elle a été choquée là, mais pourtant, tu t'es mariée avec une femme noire. Et là. Le seum, c'est comme la fois on a découvert une cité nazie cachée au Pérou. Genre, ils avaient l'or qu'ils avaient volé à tout le monde, ils l'avaient planqué dans la forêt du Pérou, c'était n'importe quoi.
Et alors, juste quand même un petit point sur ce film de 83 qui est pratiquement introuvable en France. Moi, je sais que je l'avais vu au Mexique. Toi, t'as réussi à trouver des 2-3 passages en fait, sur YouTube.
En fait, j'ai quasiment fait un méga travail de reconstitution.
Ouais, du film en fait.
Oui, c'est très difficile de faire une analyse de film avec ça. Et en fait, je me dis heureusement qu'il y a eu le second film pour faire non seulement une comparaison, mais pour faire le travail de comment ils ont représenté Frida Kahlo et son œuvre. Parce que en fait, le film de 83 nous représente que Frida Kahlo.
Mais pas son œuvre, c'est ça qui est assez impressionnant.
C'est ça, ils nous ont raconté la vie de Frida Kahlo, son charisme. On le ressent, on sent que aussi l'actrice s'est inspirée, s'est imitée, est devenue Frida Kahlo, avec les sourcils. Mais le travail du second film, c'est qu'enfin on a eu l'œuvre. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de biopics, surtout les biopics artistiques, c'est vous aurez un biopic sur un artiste que vous aimez, vous allez voir le film, vous allez le juger surtout en tant que film, est-ce que c'est un bon film ou non, etc. Est-ce qu'il y aura la révélation artistique, la réussite ou l'échec, etc. Mais la question que vous devez surtout vous poser quand vous regardez un biopic, est-ce que vous avez vu l'œuvre ? D'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas forcé de voir l'œuvre directement, vous pouvez voir par exemple l'ambiance de l'œuvre. Comme je en parallèle, c'est Francis Bacon. Il y a un biopic sur Francis Bacon, dont j'ai oublié le nom, qui, à travers sa relation qu'il a eue avec un petit voyou et tout, un petit voyou qui est mort d'une overdose dans une salle d'hôtel sur les toilettes, dramatique, il n'avait pas les droits d'auteur. Les biopics d'artistes, c'est souvent un problème de droits d'auteur. Ils n'avaient pas les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a quand même vu des œuvres de Francis Bacon parce qu'on a eu l'ambiance. L'ambiance de Francis Bacon, elle est étrange, elle est oppressante, ça ressemble à Silent Hill. Elle est mystique, c'est un problème de chair. Francis Bacon peignait ce qu'on appelle la chair, littéralement. Il allait voir des bouchers, il apprenait à observer la chair, et il prenait la chair en décomposition sous l'impression qu'il était sous acide, etc. Et on a vu l'œuvre dans Francis Bacon sans avoir vu un seul de ses tableaux à cause du manque de droits d'auteur, et ils ont réussi quand même. Le film de 2002 nous avait montré 2 tableaux de Frida Kahlo, mais ce n'était pas des tableaux officiels, parce que en fait, on voit juste Frida sur son lit à baldaquin qui se transforme en tableau, donc Salma Hayek qui se transforme en tableau, sauf que ce n'est pas un tableau officiel. On ne l'a jamais vu. Donc je pense aussi qu'ils ont eu des problèmes de droits d'auteur pour reproduire les tableaux. Possible. Alors que c'est la grande Salma Hayek, etc. Mais ils ont quand même trouvé le moyen, surtout grâce à la technique à l'époque et aux effets spéciaux, d'en fabriquer un à l'écran. C'est un tableau vivant. Normalement, pour moi, un biopic, surtout un peintre, doit y avoir des tableaux vivants. Parce que le peintre, quand il fait un tableau, en fait, c'est un truc qu'il a vu. C'est quelque chose qu'il a vu. Quand Rembrandt, il nous peint sa ronde de la nuit, il a vu une ronde de la nuit. C'est un fait. Frida, certes, les trucs qu'elle peint, elle ne les a pas réellement vus dans la vraie vie. Elle les a peut-être vus dans ses rêves. En fait, Frida nous peint ses rêves. Sauf que, quand on observe bien, Frida fait en sorte de peindre des forêts mexicaines. Elle fait en sorte de peindre des sortes de légendes de traditions amérindiennes. Donc c'est quand même des choses qui ont existé dans la réalité, qu'on peut placer dans un film, et ensuite le transformer en tableau. Et le film de 2002, il a été plus intelligent que le film de 1983, pour nous parler de Frida Kahlo, parce qu'il nous a mis son œuvre.
Et si maintenant on faisait un petit focus sur les relations qu'elle avait avec les femmes, faisons une petite virgule musicale pour faire ce petit focus. Alors, c'était quoi ces histoires de relations où la plupart du temps, en fait, on la représentait principalement comme hétérosexuelle? Et toutes ces parties, en fait, de sa vie où elle a été homosexuelle, où c'est pas forcément ça qui est remonté?
Alors, si tu veux te plaindre, il faut te plaindre au réalisateur du film.
Mais je pourrais me plaindre aussi même aux personnes qui retranscrivent, qui font les traductions des lettres où il y a des lettres de 22 à 54 et c'est que des lettres aux gars et il n'y a aucune lettre avec les mecs avec qui elle était.
C'est
quoi.
Extrêmement ironique parce que dans l'œuvre de Kahlo, quand je suis allé voir les portraits, les lettres, alors même si mon espagnol est rouillé, je remarque que beaucoup que Frida Kahlo parle en général de femmes. Tous les pronoms sont féminins, les accords sont féminins. Ce qui veut dire que ces relations dites lesbianiques sont importantes pour étudier l'œuvre de Frida Kahlo. Mais on a un effacement de ça parce que la société est hétéronormativisée, les hétérosexuels, ils sont partout, ils sont très chiants, ils ne savent pas danser, nanana, ce que...
Oui, je... Ils ne savent pas quoi ?
Danser. Je parle surtout ceux qui essayent de faire du zouk, là. Vous... Maîtrisez vos hanches, s'il vous plaît. Vos hanches avec du U-stick. Non, je suis trop méchante. Non, mais réellement, Frida Kahlo, comme beaucoup de personnes d'Amérique du Sud, fait un travail sur le corps et sur l'érotisme. Comme je l'ai dit, sa peinture, c'est une réappropriation de son corps. Et la réappropriation de son corps, ça passe aussi par ses relations amoureuses. Elle a eu beaucoup de relations amoureuses avec des femmes. Certaines étaient plus intenses. Par exemple, elle a eu une relation, sa relation principale avec Diego Rivera. Ça, on le sait tous. D'ailleurs, je tiens à dire que je trouve Diego Rivera très moche.
Ça, c'est placé. Ça y est.
Voilà, c'est placé. Je n'ai aucune âme. Non, mais son autre relation principale, c'est avec Chavela Vargas, dont on a entendu un morceau, je crois.
On a entendu deux morceaux.
On a deux morceaux.
Et la Llorona et la Bruja.
Et par exemple, si on cherche des autobiographies de Vargas, on va à Mexico, voir, si on étudie Vargas et Kahlo, il y a beaucoup de liens entre Vargas et Kahlo. Comme diraient certains historiens français, c'est qu'ils étaient très amis. Moi, j'ai envie de vous dire... Non, il ne faut pas mentir. Non, honnêtement, Frida Kahlo était bisexuelle et on a effacé ses relations avec les femmes, donc les gens du même sexe. C'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fois dans les représentations postérieures des artistes. C'est un fait. Alors que, comme je l'ai dit, Frida Kahlo écrivait beaucoup à des femmes. Si on fait une analyse de l'aspect érotique de son œuvre, et ensuite on fait l'analyse de ses lettres avec les femmes, on voit que la plupart du temps, outre Diego Rivera qui apparaît tout le temps dans ses tableaux, on dirait un pop-up, les trois quarts du de l'essence érotique, on va dire, des tabous, sont à destination de femmes. Août Chavela Vardas, on pense qu'elle a eu une relation avec Maria Callas, Georgia O'Keeffe. Apparemment, elle a eu une relation aussi avec la femme d'André Breton. Genre, elle a débarqué en France, André Breton, là, oh, Frida Kahlo, elle est belle, intelligente, etc. Sauf que Frida Kahlo a dit non.
Non, 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 c'est pas toi que j'ai envie.
Non, non, et puis, elle s'est tapé sa femme, disons-le,
Mais d'ailleurs, là, moi, j'ai un bout de... J'ai une lettre, en fait, on a réussi à trouver ça en espagnol, j'ai un bout de lettre, en fait, où la première fois, elle rencontre Chavela Vargas. Je vais le lire en espagnol et je vous le traduis après en français.
Oh, mode Google traduction.
Hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojo eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pido no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costonilla? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Aujourd'hui, j'ai rencontré Chavela Vargas, extraordinaire, lesbienne et bien plus. Elle me donne envie érotiquement. Je ne sais pas si elle le sent, je ne sais pas si elle sent ce que moi aussi je sens. Mais je crois que c'est une femme tellement libérée que, sans doute, sans aucune seconde, sans le moindre d'un doute, je me dénuderai devant elle. Combien de fois est-ce que j'ai vraiment eu envie de ça? Elle le répète et c'est érotique. Peut-être que c'est un présent que le ciel m'envoie. Frida Kahlo. Donc bon, je veux bien que ça soit une amitié forte.
Ceci était une amitié très forte. C'était... Oh là là. Voilà, on a une preuve. On a des lettres de Frida Kahlo. On a une analyse d'œuvre, mais les gens vont... Non. On va juste se focaliser sur sa relation avec Rivera. Parce que oui, la relation avec Rivera, elle était importante. Elle était importante parce que c'est grâce à ça que Kahlo est rentré dans le communisme. C'est les amis de Rivera qui lui ont présenté des communistes. C'est grâce à lui qu'elle a rencontré Trotsky. C'est là, certes. Mais il n'y a pas que ça. Frida Kahlo est un personnage tellement grandiose, tellement complexe, tellement monumental au Mexique que... Toutes ces histoires, toute son histoire mérite d'être racontée. Pas seulement celle avec Rivera, d'autant que celle avec Rivera, tout le monde la connaît. Tout le monde sait, on voit, ouais, elle s'est fait tromper avec Rivera, et je pense là, oui, mais elle a trompé Rivera aussi, elle est sortie avec Trotsky. Je suis là, Trotsky, on en a rien à foutre. Hein. Ouais, Trotsky qui s'est fait assassiner comme une merde. Après, ça, c'est pas notre problème. On sait ces histoires, mais racontez-nous les autres histoires, les autres grandes histoires.
Bah, il y en a eu aussi une autre, par exemple, avec Tina Morotti, qui était une photographe. Elles se sont fait très amies toutes les deux aussi au départ. Et elles ont eu aussi une relation ensemble. Il y avait aussi avec, tout à l'heure, la lettre qu'on a lue, qui était de Flores, qui était une actrice mexicaine. C'était pareil. En fait, il y a eu plein de choses comme ça. Et quand même, Chavela Vargas, quand on a fait un peu des recherches, elles ont quand même vécu un an dans la même maison, en fait.
Elles
habitaient dans la même maison.
Elles étaient amies,
elles étaient colocs. Oui, elles étaient colocs, exactement, elles étaient colocs.
Elles étaient colocs, nous en avons la preuve, on a le bail. Non, mais comme on constate, Frida Kahlo, ses relations extra-conjugales, ouais, elles sont plus avec des femmes. Mais on nie ça, parce que le monde est chiant.
Mais d'ailleurs, je vais vous relire juste un dernier... Une dernière lettre, en fait, qu'elle disait, je crois que c'était à Maria Callas.
La grande chanteuse d'opéra. Ouais. Pour Carmen et l'oiseau, là. L'amour est un oiseau rebelle, je crois. Merci.
L'amour est un quoi ?
Un oiseau rebelle.
Ah oui, l'amour est un oiseau rebelle.
Ouais, je suis en train de visualiser un oiseau rebelle, il a une crête de punk. ça n'a aucun sens.
Écoutez, on vous mettra cette partie-là sur le blog, parce que je pense que là, ça va être un peu compliqué à retrouver. De toute manière, c'est déjà l'heure de vous quitter. On va terminer par une petite chanson.
Ouais, on va finir par une chanson.
Oui. On dit au revoir à Frida, icône d'Amérique latine, que personne n'a oublié jusqu'à maintenant. On fait tout le temps des références. Par exemple, le film Coco de Pixar, il y a Frida Kahlo dedans.
Oui, exact.
On fait des blagues sur Frida Kahlo et son grand sourcil, son célèbre, ses célèbres sourcils.
Malgré que le film Coco peut être critical sur d'autres trucs.
Oui, mais la preuve, c'est qu'il y a tout le temps une référence à Frida Kahlo, en quelque part, tellement elle a été un phénomène.
Ah oui, bah au Mexique, elle est présente de partout.
Voilà, elle est inoubliable. Et finalement, genre, dans les couples d'artistes, d'habitude, c'est l'homme qu'on rappelle tout le temps, et la femme est après. Mais là, on a rappelé Frida.
Et ne vous faites pas avoir par l'exposition qui est en ce moment à Lyon, où vous avez l'impression que c'est une merveilleuse affiche avec Frida Kahlo. En réalité, il n'y a que deux de ses œuvres. En réalité, il y a juste une de ses peintures, mais bon, si vous avez quand même envie d'aller faire un tour, vous pouvez toujours y aller.
Ça coûte 2 euros, ne l'oubliez pas.
Il y a tellement de ventes de vin qu'on ne peut même pas approcher le tableau tellement c'est un phénomène.
Il faut frapper les gens.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir sur Radio Canus 102.2, Lilith, Martine et les autres. Vous retrouverez la semaine prochaine On n'est pas des cadeaux. C'était un plaisir de partager cette petite heure avec vous. On était plein dans les studios, c'était trop bien. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à dans 15 jours.
Salut.
Ciao.
Au revoir.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, nos separamos.